suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous dans cette émission Club de la Presse. Nous sommes au jeudi 7 novembre 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Nous sommes au quatrième numéro pour le compte de cette semaine. Bienvenue au Club. La coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitogbe Tomega est à la mise en onde, Jérôme Akuta est à la mise en ligne, je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre à travers nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, et aussi sur le continent africain. Mais nous faisons aussi un clin d'œil au monde entier pour parler des informations ou de l'actualité alors dans le monde. Notamment dans cette émission, nous allons en parler surtout avec cette élection et le retour de Donald Trump à la présidentielle, enfin à la Maison Blanche, j'allais dire, des États-Unis. Nous allons en parler dans cette émission. Ambroise, bonjour, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour les amis les techniciens qui sont de l'autre côté. Bonjour les Togolais et Togolais qui nous suivent depuis l'intérieur que de l'extérieur. D'abord, je voudrais profiter pour lancer ce coup de gueule à l'endroit de la CET. Franchement, ces derniers temps, la CET nous désole. C'est pas ce qui se passe, mais j'ai comme l'impression que le délaissage a commencé. Puisque habituellement, les mois de décembre sont des mois prédisposés à la coupure d'électricité. Mais comme ils ont déjà acquis le gaz qui doivent desservir les centrales qui nous alimentent en énergie électrique, je crois qu'il va falloir faire le maximum pour éviter les désagréments. Le pire, c'est que vous revenez à la maison à 18h et qu'on coupe à 18h. Les enfants sont à la maison, les cahiers sont tout est au noir. Sincèrement, c'est pas normal.
Et je pense qu'il y avait eu une coupure le mardi, une coupure générale pratiquement.
Dans tout le Togo pratiquement.
Oui, la suite s'est expliquée là-dessus.
Oui, moi, tout ça ne m'a pas convaincu parce que quand la CET nous dit que c'est un problème avec le Nigeria, problème de. Le communiqué là-même était. T'as dit, le communiqué même. Il y a un problème de communication aussi à la CET. Il y a un sérieux problème de communication à la CET. On en avait parlé à nos amis qui étaient là la dernière fois, ça fait quelques mois, qui a un sérieux problème de communication. C'est-à-dire qu'il y a des médias. Il suffit que moi, par exemple, ils envoient le communiqué. Même si je publie dans mon journal, le Guardian, ils ne sont pas obligés. Mais je peux relayer au moins qu'il y a tel problème qui va survenir le lendemain pour prévenir les gens. Les enfants, moi, mon grand problème, ce n'est pas le cinéma qu'il y a autour de ça. D'ailleurs, il y a des gros patrons qui ne paient pas l'électricité. Pendant que nous, qui sommes à 2000 jusqu'à 15 000, on paie l'électricité. Il suffit qu'il te reste 2000 francs, on vient te couper. Il y en a qui ne paient même pas au niveau de la caisse. Il y en a plein qui ne paient pas. Et ils sont à des millions. Maintenant, eux, ils ont des groupes électrogènes qu'ils peuvent utiliser. Maintenant, nous qui n'avions rien comme groupe électrogène, c'est nos enfants qui vont en partir. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, je ne trouve pas que ce soit normal. Quoi.
D'accord.
C'est-à-dire que le mardi, là, y compris avant-hier, au moins avant-hier, c'est relativement. Et c'est comme si le problème a été réglé. Mais ils coupent et après 30 ou 45 minutes, ils remettent. Ailleurs, ce n'est pas ça. Le mardi, là, Dieu seul sait ce qui s'est passé, quoi. Non, franchement, la CET doit communiquer. Moi, mon problème, c'est les enfants qui ont commencé l'école et qui doivent apprendre. Ils sont obligés de fermer les cahiers pour aller dormir. Alors que les enfants ont des devoirs journaliers qu'ils doivent rendre à leur professeur le lendemain à l'école. Mon lipotier, c'est-à-dire que ce sont des lampions de marché. C'est avec ça ils vont prendre avec la bougie.
Ça s'est révolu.
Nous sommes, justement. Même s'il y a des lampes qui relaient la coupure, ces lampes-là ne durent pas 2 heures de temps.
D'accord.
Non, nous sommes un petit pays de 8 millions d'habitants. de grâce. Mon titre même est évocateur.
D'accord, nous allons revenir bien sûr là-dessus, sur votre titre dans cette émission. Club de la presse, Magloire Kinviteko, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal. Bonjour aux confrères ici présents. Bonjour à nos amis techniciens, grâce à qui on nous écoute un peu partout dans le monde. Et c'est encore un réel plaisir pour moi de retrouver le studio bleu blanc de Canal FM
avec assez de génération.
Ah oui. Mais vous savez, la vie elle est trop courte et nous autres nous avons compris que peu importe les situations de la vie, peu importe ce que nous endurons, sourions à la vie.
C'est l'essentiel.
Ah oui.
Mais je sais pas, c'est quoi le secret? Je te vois et rajeunis. Et c'est quoi le secret?
Le secret?
La jeune dame de bain. C'est la jeune dame de bain.
Mais finalement, Ambroise connaît ton secret.
Mais je ne sais pas. Peut-être que.
Comment tu ne sais pas?
Il fait de la magie. Je sais pas.
Quelle magie?
Mais en vrai, vous savez, nous en sourions tant, mais la réalité, c'est que le bonheur, ça ne réside pas dans les grandes choses. Il faut savoir se faire, se rendre heureux soi-même, se contenter du peu qu'on a et prier le ciel et travailler pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail tout simplement. Sinon, la vie, elle est là, elle est belle malgré tout.
Le bonheur, c'est relatif et il faudrait quand même que nous soyons heureux à notre manière, n'est-ce pas, Michel? Bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Bonjour à Magloire. C'est vrai qu'il est rayonnant ce matin.
Oh là là.
C'est vrai que je ne l'ai pas vu il y a quelques jours.
Mais tu n'es pas moins rayonnant aussi, hein?
Oh bon, ça dépend. Je ne peux pas me voir. C'est les autres qui me voient. Mais Magloire, je pense que son sourire en dit long. Nous devons agir sur la vie. Hein. Nous devons agir chaque fois, chaque instant. C'est très précieux. Il faut. Malgré les problèmes, il y en aura toujours. Et il faut quand même positiver les choses et puis bon, avancer quoi. Bonjour, j'allais dire aussi bonjour au sacré Ambroise. Bonjour à mon homo.
Pourquoi c'est le sacré?
Non, les gens l'appellent le sacré Ambroise.
Ah.
Ça veut dire beaucoup de choses, ouais.
Ah bon?
Bon, en fait. C'est pas que je viens de l'apprendre. Michel n'a pas menti.
Okay.
J'ai beaucoup de surnoms.
Après sacré, tu viens encore quoi comme surnom?
Il y a Kamikaze, il y a.
Ah bon?
Il y a plein de. Il y a Petit Piment, il y a plein de mots que les gens. Ma fibre, bon, moi je prends tout. Hein. C'est par rapport peut-être à nos prises de position, à nos analyses. Ce n'est pas pour pouvoir. Dernière fois, je disais par rapport à Michel. Chaque fois, je cite Michel qui dit les autres sont au quatrième étage, nous on est en bas, au bas de l'échelle. Parce que chaque fois, ça me vient. C'est les riches et l'extrême pauvreté. Elle a l'habitude de s'exprimer comme ça. Donc, moi, je rends grâce à Dieu pour tout. Hein.
Bonjour à tous les super branchés. Hein.
D'accord. Oui, Magloire.
Oui, une petite seconde. C'est vrai que tout à l'heure, vous m'avez demandé, mais c'est quoi le secret? Mais peut-être que c'est l'occasion aussi de partager l'information avec les confrères et tous les auditeurs qui nous suivent. J'ai été, on va dire, positivement impacté la semaine dernière, notamment le jeudi passé, lorsque je me suis rendu compte que c'était une journée internationale ou mondiale dédiée à la célébration de la vie par les Nations Unies. Et franchement, j'ai été un peu surpris, mais après recherche, je me suis rendu compte que c'est quand même la 7e année que ça se célèbre. Et à 13h00, à la date prévue, les Nations Unies ont recommandé qu'on fasse une minute d'acclamation pour célébrer la vie. C'est-à-dire, vous vous levez, vous êtes en train de faire un travail, il est 13h, vous vous levez, vous acclamez pendant une minute pour célébrer la vie. Parce que les Nations Unies se sont rendues compte que la conscience humaine a tendance à célébrer beaucoup plus la mort. Et qu'il était temps de célébrer la vie. Donc je crois que ça m'a impacté positivement. Et depuis une semaine, j'ai compris que malgré tout, il faut célébrer la vie et il faut sourire à la vie.
Justement, il faut sourire à la vie. Et comme le dira l'autre, la vie vous sourira aussi. Et je pense que la vie a souri ce matin à Elom Atisobe. Elom, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous avez souri à la vie et la vie aussi vous a souri.
Ah ben tous les jours, la vie nous sourit. Je crois quand même que ça fait partie du parcours aussi. Aussi longtemps que soit ça dépend de vous, soyez en paix avec vous-même. Et c'est ça, c'est la parole de Dieu. Donc, ce matin, chaque jour que Dieu fait, quand on est en bonne santé, quand on vit, tant qu'on a le souffle de vie, il faut dire d'abord merci à Dieu et puis sourire à la vie parce qu'on a le souffle et chaque jour est un défi. Donc, par la grâce de Dieu, on essaie toujours de pouvoir relever ces défis et de pouvoir justement aussi joindre le dos.
D'accord, c'est l'essentiel. Alors, il y a des journaux qui sont dans les kiosques ce matin, et donc c'est pour cela même d'ailleurs que nous animons cette émission autour alors de l'actualité ou de tout ce qui a été évoqué alors dans les kiosques. Il y a le journal Liberté dans les kiosques qui déjà je lis à la une. Réception d'hôpitaux mère-enfant d'ici la fin de l'année. Licenciement, arrêt des travaux, impayé des salaires, le pari sera-t-il tenu ? S'interroge le journal. Il y a le journal Le Changement aussi dans les kiosques. Le journal Le Changement qui écrit à sa une, commune Yoto 2, bientôt une usine de production d'huile rouge et palmise à Tchekbo. Autre journal, le journal La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune, dont le directeur de publication est Mathis Obé est avec nous. Vous écrivez à la une, Assemblée Générale imminente, le chronogramme électoral du CNO Togo. Et vous faites aussi allusion au 19e FOA international de Lomé. Vous écrivez, le CTF peaufine les derniers réglages. Également, le journal des Guadiens, le journal des Guadiens qui écrit à sa une, il faut, en citant peut-être alors les propos alors de Nathanaël Olympio, le journal écrit, il faut continuer à combattre cette nouvelle constitution jusqu'au bout. Il ne faut pas l'accepter. Elle a été faite contre les Togolais. Et autre journal, c'est le journal Flambeau des démocrates. Flambeau des démocrates qui est aussi dans les kiosques ce matin. Vous êtes revenu alors sur l'élection de Trump aux États-Unis. Vous écrivez, Magloire, à la une alors de votre journal, Trump commandant en chef, c'est et ce que vous écrivez alors ce matin. Il y a d'autres journaux, bien sûr, qui sont dans les kiosques. Il y a War le vainqueur, dont le directeur de publication, Michel, qui est avec nous déjà ce matin. Mais je voudrais qu'on commence, on reviendra d'ailleurs sur les différents titres du journal War le vainqueur aussi dans cette émission. Mais je voudrais qu'on commence cette émission avec ce titre des Guadiens à la une. Abros, vous écrivez gaz butane Niger 3750, Burkina Faso 5500, Côte d'Ivoire, 5200 francs et pour 12,5 kilos. Togo, 9900 francs. Dieu, qu'est-ce que les Togolais ont fait pour mériter ça? C'est une question que vous posez à la une alors de votre journal ce matin.
Oui, hier soir quand j'ai partagé la une du journal de Guardian, les gens, apparemment, cette question a réveillé beaucoup de gens. Et apparemment, les gens sont très contents d'avoir rappelé que le Togo a un bord de mer est mieux que le Niger, le Mali ou le Burkina Faso, dont le prix du gaz, tu viens de le citer, les prix sont comparativement autre chose que ce que nous avons ici. Même si on avait un seul opérateur qui livrait le gaz par le passé, aujourd'hui on a plus de 3 ou 4. Et que le gaz, la bouteille de 12,5, en tout cas c'est ma référence dans le journal, et c'est le prix des 12,5 que j'ai mis par rapport au Burkina, à la Côte d'Ivoire et au Niger. On ne peut pas comprendre que le Niger, chez nous on dit Begadito, quoi. C'est les pays de l'Interland qui n'ont pas de mer, où le bateau doit transporter le gaz, soit par importation quelque part, ou soit on fabrique le gaz. Le Niger n'est ni producteur du pétrole, ni producteur du gaz, encore moins le Burkina Faso. On peut dire que le Togo, selon certaines indications lues, produit du pétrole offshore, quelque part, dans la mer. C'est à confirmer ou à infirmer. Mais nous, on a 4 ou 3 opérateurs qui importent le gaz. Mais pourquoi le Togo, tu dois acheter le gaz à 10 000 francs, qui fait à peine 30 semaines? 10 000 francs. Alors qu'au Niger, c'est 3 750. En Côte d'Ivoire, 5 500. Et au Burkina, c'est à 5 200. C'est pas possible, quoi.
Mais il n'y a pas une durée de vie du gaz.
Ça dépend de comment tu l'utilises.
Non, non, alors, on ne peut pas chercher à défendre ça. Mais...
Donc, moi, quand tu dis, moi, vous avez à peine 3 semaines.
Non, c'est oui, c'est vrai. Mais c'est que la contenance n'arrange pas les consommateurs.
Ah, ok.
Avec ce prix, quoi. Pour certains, c'est-à-dire que quelqu'un qui utilise le gaz chaque soir, ça dure peut-être un mois. C'est ce que je voudrais dire. On prépare le riz, on prépare la sauce. Tous les soirs, ça ne va pas atteindre un mois. Maintenant, celui qui vient, il utilise le charbon aussi. De temps en temps, ça peut aller jusqu'à un mois et demi, 2 mois. Mais le tout compte fait, ça n'arrange pas le consommateur togolais. Ça n'arrange pas les ménages. De toutes les classes, hein, il y a des riches, eux aussi, même s'ils ont de l'argent, ça ne les arrange pas. Mais ici, c'est la grande majorité qui est pauvre. Et la classe moyenne, on en souffre, quoi. Que le gouvernement fasse l'effort de diminuer le prix du gaz, même au prix initial à 6 500 francs. S'il faisait ça, on peut se contenter. Déjà, le prix était déjà élevé par rapport aux autres. Quand on prend le pétrole, par exemple, la vérité des prix, on n'a jamais connu ça. Quand le baril est à 109, à 102 dollars, on était déjà à 600 quelque chose francs. Maintenant que le baril descend, ça fait au moins 2 ans, le baril est arrivé jusqu'à 109 dollars. La dernière fois, on a publié, le pétrole est toujours au même prix, à 600 quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Le bord de maïs est à 1000 francs. Gari est à 1200. L'haricot est à 3000 francs. La dernière fois, on en discutait avec le bidon du 2,5 litres chez Dadede. C'est à un prix vraiment élevé.
Actuellement, c'est 28 000.
Tu vois? Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? Cher président de la République, cher ministre du Commerce, cher Premier ministre, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les Togolais ont fait pour mériter ce crucifix? C'est-à-dire que nous sommes crucifiés, quoi.
D'accord. Ok, ça se comprend. Oui, mais entre-temps, on discutait même d'ailleurs du prix du carburant. Et dans cette émission, on en avait parlé abondamment. Et effectivement, on a touché même d'ailleurs cette question du gaz aussi, puisque vous avez fait des travaux alors sur cela. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation du prix du gaz alors chez nous?
Bon, est-ce qu'il y a une augmentation? Disons plutôt que le prix est linéaire depuis plusieurs années déjà. Les prix n'ont pas changé.
Nous disons augmentation par rapport même aux autres pays, puisque y a la comparaison par rapport aux autres pays.
Oui, c'est un benchmarking. Oui, ça c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, moi je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, mais on va juste plaider que l'État puisse augmenter sa subvention. C'est la subvention de l'État par rapport au gaz butane qui est... L'État, bon, le gouvernement considère que il fait de son mieux pour que le prix soit quand même bas. Maintenant, on va plaider plutôt pour que l'État augmente la subvention du prix du gaz butane. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, le gaz butane rentre dans la consommation classique des ménages togolais. Et de plus en plus de ménages dans la capitale utilisent le gaz butane, même en périphérie aujourd'hui. Et bon, maintenant, il faut que l'État, dans une certaine mesure, regarde un peu l'assiette, parce que vous savez, on est inscrit dans une logique de développement durable. On ne peut plus encourager les gens de l'intérieur du pays à couper les arbres, à faire du feu avec du charbon de bois, ou bien faire du feu avec du charbon de bois ou sur des marmites, etc. Donc, il faut justement encourager les gens à s'inscrire dans une logique de préservation du bio, c'est-à-dire d'utilisation du gaz butane. Donc, on va prier que l'État augmente la subvention. Parce que si la subvention vis-à-vis du gaz augmente, vous allez voir que les prix vont un peu baisser parce que l'État va prendre en compte une majorité maintenant de paramètres autour de la fixation des prix du gaz butane. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le gaz butane reste le seul produit pétrolier ou qui rentre dans le domaine des hydrocarbures qui n'est pas importé par l'État. Donc c'est au privé de pouvoir faire la commande et tout. Donc les autres, c'est l'État qui a la commande des produits pétroliers. Mais le gaz butane échappe pour le moment au contrôle de l'État. Mais c'est l'État qui fixe les prix dans une logique de régulation du marché. Donc c'est 3 ministères qui sont impliqués, le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Énergie. Donc ces 3 ministères fixent les prix du gaz butane de commun accord par arrêté interministériel. La dernière augmentation, si ma mémoire est bonne, c'était l'arrêté de 2012. C'était la dernière augmentation. Maintenant, après, vous savez qu'entre-temps, il y a eu plusieurs problèmes. Vous vous rappelez de l'affaire où on a dit, bon, tantôt on a augmenté, on n'a pas augmenté, l'État subventionné, etc. par rapport à la COVID. Il faut que l'État regarde encore les ménages pour augmenter encore sa subvention pour que justement les gens soient soulagés. Maintenant, sur les prix des produits de première nécessité, c'est vrai ce qu'Ambroise a dit, le maïs
est élevée sur le marché. À le haricot, je ne sais pas, en temps même là, pour ceux qui sont habitués à manger du haricot.
Oui, c'est 4 000 le bol.
Voilà.
Le bol est à 4 000.
Et les vendeuses même qui nous vendent du haricot au bord de la route, là, vous savez, quand vous allez chez eux maintenant, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué.
Et, comme le dira l'autre, il n'y a plus du complet à 200.
Voilà. Bon, bon, maintenant, la farine. Et ensuite, il y a le bidon d'huile de 25 litres. Lundi, c'était à 26 000 francs. Vous savez, le bidon de 25 litres. Lundi, c'était à 26 000. Mercredi, c'est passé à 28 000 francs CFA. Mercredi, c'est-à-dire hier, c'est passé à 28 000 francs CFA. Maintenant,
2 000 de plus.
Oui, mais le problème, c'est qu'on se demande qui fixe ces prix. C'est-à-dire parce que les gens qui ont importé ces bidons d'huile, ils les ont importés, ils les ont achetés à un prix bas. Maintenant, quand on constate qu'il y a inflation, c'est par rapport à quoi? Qui fixe les prix? C'est-à-dire, on ne comprend pas quoi. Au bout de 26 000 francs, le samedi, le week-end dernier, c'était à 24 000 francs CFA. Le lundi, c'est passé à 26 000, le mercredi à 28 000. Qui fixe les prix par rapport à tout ça? À un moment donné, il faut se poser des questions.
D'accord. Oui, mais Michel, c'est vrai que la question se pose, hein, qui fixe les prix, mais au même moment, c'est la responsabilité aussi de l'État. Il y a un ministère à l'heure du commerce, et on a vu la manière dont déjà au Niger, tout récemment, les mesures ont été prises pour qu'on diminue un tout petit peu les prix des produits de première nécessité. Et aujourd'hui, quand on veut faire un développement à visage humain, est-ce qu'on n'a pas besoin vraiment de diminuer ces prix?
Moi, je n'ai pas besoin de comparer le Togo à un autre pays. Parce que peut-être si vous rentrez dans ce débat, il y a des choses que ici, le Togo fait mieux que d'autres pays n'arrivent pas à faire. Donc, cette comparaison. Mais ce qui est évident, c'est que la vie coûte très cher. La cherté de la vie, elle n'est plus à démontrer. Ça ne va pas. Vous parlez de vol d'haricots à 4 000. Mais peut-être que ça a diminué. C'était allé à 5 000. Moi, j'ai acheté le bol d'haricots à 5 000 au marché de l'Hélicopé. Quand vous parlez, je vous regardais, je dis, ah, parce que vous ne sortez pas. C'était arrivé à un moment donné, c'était à 5 000. J'ai acheté. Vous voyez? Ce qui est sûr, c'est que compte tenu de la pluviométrie, les récoltes ne suivent pas très bien. Bon, là, on peut comprendre pourquoi, au niveau des denrées alimentaires, le prix est élevé. Mais par rapport à lui, comme l'homme le disait, mais est-ce qu'il y a un cordon douanier? Qu'est-ce qui se fait? C'est là où on est inquiet. Qu'est-ce qui se fait? Quels sont ces commerçants qui s'arrogent ce droit de se comporter ainsi? Et puis, par rapport au gaz, quoi qu'on dise, le gaz au Togo coûte très cher. Il faut qu'on le dise. Les ménages n'arrivent pas à supporter. Je ne sais pas vous, si vous sortez de temps en temps, vous menez de petites enquêtes, quand vous quittez le Mans, actuellement, le gaz est beaucoup plus salomé ici. Hein. Oui. Plus vous allez vers le nord, les gens ont tout. Donc, si le gouvernement veut, faire la politique de
consommation
du gaz, et tout en préservant l'environnement. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Sinon, mais vous allez vous parcourir le Togo, vous allez arriver, mais peut-être c'est quelques fonctionnaires, un, deux, qui utilisent encore le gaz à l'intérieur du pays. Les gens se rabattent sur le charbon du bois ou bien le bois lui-même. Donc, il faut quand même que les autorités quand même voient le problème-là. Ça ne va pas. Et vous allez à Lomé ici dans les périphéries, les gens ne soyez pas. Vous allez voir les gens en train de cuisiner dans des marmites, hein, et sur des foyers traditionnels et tout. Mais on est à Lomé. Parce que certains ménages ne peuvent pas se donner le luxe d'aller prendre une bouteille de gaz, même à 6 kilos. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce que nous disons ici. C'est très sérieux. Il faut que nos gouvernants vraiment baissent leurs yeux vers nous. Hein? Il faut qu'ils regardent parce que
C'est pas bien.
D'accord. Oui, mais Magloire, il n'y a pas que le gaz. Aujourd'hui, quand vous écoutez les Togolais, ils vont vous dire que la vie est devenue chère. Et quand on prend le gouvernement et quand on veut faire une politique à visage humain, je répète encore cela, une politique à visage humain ou un développement à visage humain, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas regarder justement le panier de la ménagère?
Bien sûr, vous comprenez pourquoi il était important, quand je le disais tantôt, de sourire à la vie, parce que la situation sociale au pays, il faut avoir le courage de le dire depuis ces dernières années. Si vous voulez vraiment y mettre le cœur, vous allez craquer. Vous risquez de craquer. Mais dites-moi un seul secteur où ça va pour le citoyen togolais. Même les fonctionnaires, ils se plaignent. Ceux dans le secteur privé, ils se plaignent. Alors que dans tous les pays, c'est le secteur privé qui crée de la richesse. Formellement, il y a des indicateurs, il y a des chiffres qu'on nous annonce chaque année, chaque mois, presque chaque semestre, mais la réalité du terrain, elle est autre. Et Amourasa a bien fait de poser le débat, et on en parle pratiquement tout le temps. Et l'homme également fait bien de nous ressortir chaque fois la méthodologie qui suit la commande du gaz et tout. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, qu'est-ce que le Togolais a comme plus-value de toute cette démarche, on va dire, assez lourde? Parce que quand j'apprends que pour la commande et la vente du gaz au Togo, il faut trois ministères, mais ça crée déjà de la lourdeur. Vous comprenez pourquoi des années durant, on n'arrive pas à diminuer le prix. C'est pas qu'on veuille forcément qu'on diminue le prix, mais ça fait quand même mal en tant que Togolais d'entendre qu'au Bénin, au Burkina, c'est pas de la comparaison, mais c'est des faits. Nous voulons aussi vivre comme eux. Est-ce que ces pays sont plus riches que nous? Est-ce qu'ils ont deux têtes? Est-ce qu'ils ont quatre pieds? Non, ce sont des humains comme nous. Mais si, à un moment donné, ils ont su juguler les indicateurs, faire en sorte que eux, leurs citoyens, puissent avoir accès au gaz à un prix assez abordable, mais pourquoi pas nous? Et donc, c'est pour ça que, justement, le devoir citoyen voudrait que on fasse ce job que nous sommes en train de faire. C'est à la fin, c'est une sorte de plaidoyer. Hein. C'est pas qu'on critique, mais c'est une sorte de plaidoyer envers les dirigeants pour écouter tant soit peu le cri de détresse de la population. Vous l'avez dit, si on veut faire une gouvernance à visage humain, il va falloir fermer les yeux sur parfois certains, on va dire, mécanismes méthodiques et scientifiques pour écouter les cris de détresse des populations et agir pour qu'ils puissent respirer un peu. Sinon, on peut pas admettre que on a lancé il y a quelques mois une vaste campagne de quoi. On demande aux Togolais de planter 1 milliard d'arbres d'ici quoi, 1 an, et au même moment le gaz est cher. Ça voudrait dire qu'on fait une chose et on fait son contraire à la fois. Parce que, et Michel l'a dit, à l'intérieur du pays, vous demandez aux gens de planter l'arbre, et au même moment le gaz est cher, qu'est-ce qu'il va faire? Le pauvre arbre, il est là, il va l'abattre, il va faire quoi, du feu. Et puis bon, voilà quoi. Ça voudra dire que on a certes la volonté, mais il faut accompagner la volonté par une vision qui soit commune et logique.
Parce
que
il y a l'aspect environnemental ou écologique que l'homme avait soulevé. Magloire vient d'en parler aussi dans notre article. Quelque chose qu'on a voulu attirer l'attention des gens, que vous voulez que les gens utilisent le gaz, mais le gaz est devenu à 10 000 francs. Quand vous donnez les 10 000 francs, vous nous prenez plus les 100 francs. Beaucoup n'en donnent plus les 100 francs. Des fois, moi, je réclame, mais des fois, j'oublie même. Parce que c'est les enfants qui vont, bon, ça s'oublie quoi. Maintenant, les gens se tournent vers le charbon de bois. C'est-à-dire les énergies fossiles, soit c'est le charbon de bois ou le charbon lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les deux produits là aussi deviennent chers. Ça veut dire que pour éviter de couper les arbres, ça aussi on monte les enchères. Vous allez dans les fermes, les vieilles dames vont vous dire le sac de charbon qui coûtait à 2000 francs est aujourd'hui à 6000, des fois à 8000. Et ça fait 5 ans, ça a changé. Hein? Et ça ne diminue plus. Ça veut dire que les gens sont tenaillés entre l'enclume et le marteau. Vous voulez aller en haut, ça veut dire que vous voulez aller vivre à l'exponentiel au niveau du gaz, vous ne pouvez pas. Parce que le gaz qui était à 6500 est aujourd'hui à 10000. Maintenant, vous voulez descendre en bas pour vous soulager, ne serait-ce que préparer aux enfants qui viennent manger le bois et tout ça là, sont chers. Parce qu'on ne veut pas que les gens investissent les forêts pour détruire, le couvert végétal. Mais là, vous nous parlez de ce coup-là-dessus, Non seulement ça vous parlait de quoi? De la restauration des enfants. Comment vous dites ça? Les cantines scolaires. Tout ça, c'est bien. Mais à contrario, tous les enfants ne vont pas. Moi, je vais chez mon ami Shintobé, il n'y a pas ça. Je ne sais pas si c'est lui qui a ce projet-là. Moi, j'ai fait l'école officielle de Shintobé.
Ça va
parce que c'est mon école. Mais j'ai compris qu'il n'y a pas ça. Hier, j'ai vu certains enfants. J'étais allé au village, j'ai vu certains enfants. D'ambulé, j'ai dit, ces enfants-là, peut-être, ce qu'ils vont aller manger à la maison, ce serait un problème. Mais non, là, on peut avoir le bois, quelque part, dans le village. Maintenant, le bois au village aussi, c'est rare maintenant dans les villages. C'est rare parce qu'il faut des arbres. Il faut chercher des arbustes pour pouvoir faire le feu. Il n'y en a plus. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous demandons, il a dit ça, c'est un plaidoyer que nous faisons. C'est-à-dire que nous demandons pardon, monsieur le président de la République. Nous demandons, nous vous implorons. C'est-à-dire que s'il veut qu'on aille à présent pour s'agenouiller là, moi je peux le faire au nom du peuple togolais.
Mais est-ce que c'est pas
pour que le gaz là.
En tant que citoyen, est-ce que ce n'est pas notre droit de le réclamer?
Oui, quand même. Ici je parle en tant que journaliste parce que j'ai écrit un article pour réclamer la réduction du prix du gaz. Mais je parle en tant que citoyen pour demander. C'est-à-dire que eux, Michel, ils sont en haut. Ils ne savent pas ce qui se passe en bas. Hein. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que les gens souffrent quoi? Les gens souffrent là. C'est-à-dire que hein, au moins le minimum qu'ils puissent nous faire, si. C'est les femmes des patrons qui exportent, qui importent le maïs, qui importent en plus, comment on appelle le gari et tout ça là. Le gari maintenant, nos gari ici, les gens viennent du Gabon, de la Centrafrique, de la Guinée équatoriale, achètent tous les champs de manioc. Je ne mens pas.
D'accord.
Et là, vous voyez que les gens vivent comment? Ce qui fait que le prix aussi de ces produits a augmenté. Maintenant, il y en a ici des nôtres qui sont déjà riches, qui sont des bonnes femmes, qui sont proches des gens, qui ont le monopole sur ces produits-là et qui aujourd'hui. Les exportent vers ces pays de l'Afrique centrale.
D'accord.
Le Togolais, c'est lui qui en souffre.
Ok.
C'est pas normal.
D'accord. Et nous sommes rejoints par Jean-Paul Rény, directeur de publication du journal Canal D. Jean, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères studio et à tous ceux qui nous écoutent sur Canal FM.
Jean, nous sommes en train de parler de cette question de vie chère. C'est vrai que tout récemment, la question a été discutée même au CPC et avec la présence alors de la ministre, alors du commerce. Mais finalement, nous n'avons pas de suite.
Oui, il n'y a pas de suite. C'est triste, mais c'est la réalité que nous vivons au jour le jour. En venant, je vous écoutais en studio quand vous parliez du gaz. C'est vraiment incompréhensible. Que des pays de l'Interland vendent le gaz plus moins cher que nous qui sommes de la côte. Si on me demande, moi, journaliste, comment je peux expliquer ça au quartier, je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire. Et franchement, c'est compliqué parce que on n'a pas de levier sur lequel nous baser. Comment expliquer cet état de choses? C'est vraiment compliqué. Et Ambroise l'a tantôt dit, tout coûte cher actuellement et rien ne va. C'est-à-dire que pour certaines familles, manger une fois par jour, je vous dis, c'est un miracle. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que, parfois, nous, on sort un peu. Mais quand vous allez dans le bas, mais c'est compliqué. Et un Togolais va débourser 4750 pour payer une petite bouteille de gaz de 6 kilos. Mais c'est compliqué. Il faut qu'on essaye de voir. C'est vrai qu'on fait des visages, on dit, des réformes au visage humain. Selon les rapports et selon la communication du gouvernement, il y a des efforts qui sont faits. Mais dans la réalité, quand vous allez au niveau du panier de la ménagère, ma foi, c'est très compliqué. Et je peux dire que ça va de mal en pis. Tout coûte beaucoup plus cher. Malgré ce que l'État fait, il faut avoir l'honnêteté et le courage de reconnaître qu'il y a matière à revoir. Si des gens sont arrivés à aller ramasser du riz avarié sur un dépotoir, c'est qu'il y a matière à revoir. Et il faut qu'on se pose les bonnes questions. C'est vrai que nous faisons des réformes, nous faisons beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui fait que le peuple togolais ne ressent toujours pas cet effet boomerang-là? Et il y a même un autre cas que je vais aborder. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez pour faire un crédit à la banque, on vous prélève 8000 francs de taxes supplémentaires. Depuis quelques jours, les gens se plaignent. Essayez d'investiguer pour voir. Il y a une nouvelle taxe de 8000 francs qui est imposée. Pourtant, déjà, vous payez des taxes au niveau de la banque. Il y a la taxe sur les activités financières que l'État prélève au niveau de la banque. Mais pourquoi on prélève encore 8000 francs? Et ça, cette taxe n'a pas été suivie de communication. Et c'est au Togo seul que cela s'applique. Si c'est un truc sous-régional, est-ce qu'on ne peut pas parler avec la BCAO pour comprendre? Mais aujourd'hui, hier, j'étais avec des cadres de l'administration qui se plaignaient. Qu'ils ne comprennent pas d'où est-ce que cette taxe est sortie, mais on n'a pas de répondant actuellement. Et malheureusement, on se rend compte que
tout coûte cher, même quand vous passe de l'argent, ça coûte aujourd'hui beaucoup plus cher. Imaginez un pauvre Togolais qui va pour faire un prêt de 250 000 francs à la banque. On lui prend 8 000 francs sur 250 000. Vous imaginez le poids que ça va représenter pour cette personne? Et il va payer le taux d'intérêt et tout ça. Mais comment il va s'en sortir? C'est des choses que nous devons relever et que les gouvernants essaient de comprendre. Parce que nous sommes dans une situation d'alerte. Nous faisons que alerter, que l'État au moins prenne et essaie de comprendre et voir sur quel levier on peut actionner pour que vraiment le Togolais puisse souffler un peu.
D'accord.
Parce que c'est compliqué.
D'accord. Nous avons fait un clin d'œil à la technique et on revient juste après.
13.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. C'est vrai, nous avons parlé en première partie alors de la vie chère. On va s'intéresser un peu à la politique, Magloire. Vous nous donnez bien sûr le titre, hein, enfin le sujet de la politique. Vous parlez de décentralisation. Vous écrivez décentralisation après la mise en place alors de l'Assemblée nationale, le Sénat en chantier. C'est vrai que tout récemment, en Conseil des ministres, les dispositions concernant le Sénat ont été mises en place. Et je veux bien parler alors de ce conseil des ministres du mardi. Alors, finalement, on pourra dire que la 5e République est en marche, c'est ça?
Oui, c'est ce que nous constatons. Et évidemment, depuis l'élection du le double scrutin du 29 avril, qui a débouché donc à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, on comprend que le processus se poursuit. Et la nouvelle étape franchie depuis mardi dernier, c'est la mise en place de l'arsenal juridique qui doit concourir justement à la mise en place du Sénat qui constituera donc la deuxième chambre du Parlement. Puisque désormais on doit comprendre que le Parlement est fait de deux entités, de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale étant déjà là et en activité, il faut maintenant travailler pour asseoir, n'est-ce pas, le Sénat. Et aujourd'hui, l'arsenal juridique est là. On comprend que, aujourd'hui, quelles conditions il faut remplir pour être Sénat, les conditions d'éligibilité, lorsque on aura pouvoir un poste, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. C'est tout ce que le gouvernement a décidé le mardi dernier en Conseil des ministres. Mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que peut-être un bon bout de chemin a été fait, puisqu'on nous apprend que les deux tiers, n'est-ce pas, selon la nouvelle constitution du Sénat, seront constitués par des élus locaux, et puis le un tiers par cooptation du chef de l'État. Et donc aujourd'hui, on a élu, il n'y a pas longtemps, les conseillers régionaux. Et donc, pour finir ce processus, la balle est dans le camp du chef de l'État qui va donc désigner les un tiers pour constituer le Sénat et, comme vous l'avez dit, pour en tout cas finir cette étape de formalisation des deux chambres dans la nouvelle république que nous avons, la 5e.
D'accord. Alors, Ambrose, c'est vrai que vous avez cité Nathaniel Olympio à la une alors de votre journal, qui disait, on connaît même d'ailleurs sa position par rapport à cette question de 5e république, où il dit même d'ailleurs que les Togolais doivent lutter contre alors cette nouvelle constitution, puisque c'est fait contre les Togolais. Alors, quand on voit les démarches, le processus aujourd'hui, est-ce que finalement, au niveau alors du pouvoir en place, les travaux quand même qui continuent, il y a tout ce qui pourrait concourir alors à cette 5e république qui continue. Nous sommes en transition.
Oui, ceux qui ont initié la nouvelle constitution, qui ont changé de force cette nouvelle constitution et qui ont donné naissance à une ou qui a donné naissance à une nouvelle république qu'ils appellent 5e République, eux, ils sont dans leurs œuvres. Sauf que les Togolais ne pactisent pas, ne sont pas consentants avec ce qui est fait. Eux-mêmes, ils le savent. Ils n'ont consulté personne. Je me rappelle très bien, avant même que la CVGL même ne soit lancée, il y avait une consultation nationale. Madame Higué, on était à Cara, je me rappelle très bien. Avant même que cette consultation, cette histoire-là ne soit faite. Maintenant, si on veut faire une constitution pour un pays, pour un peuple, c'est le peuple qui donne, qui dit d'abord, je veux une nouvelle constitution. Et ce peuple-là, on le consulte. Ils n'ont pas fait ça. Maintenant, ils sont en train de dérouler ce qu'ils ont mis dans leur paquet de la nouvelle, de la 5e République. Vous allez voir déjà les différents grabuges que nous on a déjà dans cette 5e République. Est-ce que vous le délaissage a commencé, hein? Ça, c'est la 5e République. Le prix du bol, le gaz, tout ça là, c'est la 5e République. Parce que ce qu'on avait expliqué aux gens dans les villages, c'est qu'avec la 5e République, avec une nouvelle constitution, les Togolais mangeront 6 fois par jour.
Est-ce que c'est ce qui a été dit?
C'est juste une manière de paraphraser ce que les gens, ceux qui ont sillonné les médias pour nous dire. Nathaniel Olympio, lui, il est clair. Nous allons faire la guérilla judiciaire. Il est encore loin. Nous allons faire la guérilla médiatique jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse, jusqu'à ce qu'il disparaisse de notre espace. Ce sont les ressources dont nous disposons et que nous allons mettre en œuvre. La mobilisation de la population est l'arme absolue. C'est la bombe nucléaire dont disposent les Togolais. Et c'est une évidence. Les Togolais, quand tu fais quelque chose à quelqu'un, la personne n'a pas d'âme pour te faire. Il te regarde. Ou bien elle te regarde. Sans pas dire qu'elle est impuissante. Mais elle te regarde, fais ce que tu veux. C'est comme, excusez-moi, quelqu'un qui veut violer une femme. Vous voulez violer la femme, vous l'avez amenée quelque part. La dame est impuissante, vous avez des couteaux, vous avez de l'arme. Qu'est-ce que vous voulez que la dame fasse? C'est parce qu'elle a accepté contre son consentement. C'est du viol. C'est ça. Les Togolais ont été violés dans leur âme. Parce que la constitution, c'est leur droit. C'est eux qui doivent imposer une constitution. C'est eux qui doivent réclamer une constitution. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas consenti à cette constitution. Et donc, ceux-là qui pensent que c'est fini, ce n'est pas fini. Peut-être un matin, tout ça, ça va tomber. Mais je dis que les gens reviennent en arrière. Il ne coûte rien de revenir en arrière pour faire bien les choses. Ça ne dit rien à personne. En Allemagne, Scholz, le chancelier, mais il a des problèmes. Il y a un autre membre de la coalition des trois députés qui a demandé à quitter carrément la coalition. En mars, il y aura des élections. Ça, c'est la vie de la démocratie. En Israël, des élections aux États-Unis. Mais le Togolais aussi veut vivre là. Il veut vivre la démocratie électorale, le changement des choses. Pourquoi les gens souffrent? C'est parce qu'il n'y a pas de changement à la tête de l'État. Il n'y a pas de changement dans les pôles. Regardez une assemblée nationale. C'est les mêmes personnes qui sont là, du parti EPT Unis ou de Unis, qui sont toujours là. On les a changés, on les a encore remplis, on a rempli la salle encore avec les mêmes personnes. Maintenant, quand on remplit là, le pôle financier se trouve toujours dans les mêmes personnes, dans la main des mêmes personnes. Ça ne change jamais. C'est les mêmes personnes, leurs enfants sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont en France. Toi et moi, on est ici. Moi, je ne me plains pas d'aller au Canada, non. Mais je veux juste manger. Je veux juste boire en satiété. Je veux manger au moins deux fois dans la journée.
D'accord. Ok. Michel, c'est vrai, on voit aussi les contestations à cette 5e République ou à cette nouvelle constitution. Il y a les propos alors de Nathaniel Olympio qui ont été cités même tout de suite par Ambroise. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas des propos politiques et que, comme on le dit, ça continue toujours, enfin, au niveau même d'ailleurs du gouvernement, on applique quand même cette 5e République?
Non, ce que moi je sais, c'est que bon, la mise en place de la sécurité publique est en marche. Vous avez dit, il y a le conseil des ministres mardi où on a décidé des indemnités, les conditions d'éligibilité et tout. Donc ça veut dire que les choses progressent. Mais maintenant, Nathaniel Olympio, c'est un homme politique. Bon, il est libre de dire ce qu'il pense. Il le disait, mais les choses se mettent en place et on avance. Donc, bon, il est libre, hein, c'est un acteur politique. Il devait bloquer cette constitution, on ne devait pas arriver à ce jour.
Non, mais il n'est pas seul, il y a quand même
puisque c'est de lui que tu as parlé.
Oui, justement.
Oui, mais et tous ceux qui vont avec lui, bon, ils sont dans leur logique. Les autres sont dans leur logique aussi, ils avancent. Et bon, pour le moment, il n'y a pas d'obstacle. Donc. Jusqu'à ce qu'ils amènent leur obstacle, je pense que les autres sont très loin. Donc, moi, je n'ai pas. Je ne trouve pas encore. En tout cas, la matière à ce niveau-là,
d'accord,
de battre encore.
Okay.
Les choses avancent. Bon.
Okay.
Ceux qui ont envie de parler, bon, ils vont parler.
Mais
bon,
c'est la démocratie.
Oui, c'est plus bon. Ça ne change rien pratiquement.
Ah, d'accord. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il n'y a pas d'obstacle pour le déroulement de cette 5e République actuellement?
Bah, vous savez, comme on le dit, on constate tous chaque jour que le gouvernement avance. On a suivi le Conseil des ministres hier avec la mise en route du Sénat, avec les conditions, les critères, conditions d'éligibilité, ensuite les émoluments, les avantages, les indemnités, tout ça. Bon, on a suivi parce qu'on attendait justement le Sénat pour former l'Assemblée nationale et ensuite évoluer vers 2025 où véritablement la 5e République va entrer en vigueur. Mais du côté de l'opposition, on continue justement de dénoncer, de s'opposer à cette constitution, ce qui explique d'ailleurs le boycott du Parlement par le député Maître Apévon et ensuite Jean-Pierre Fabre, qui ont refusé de siéger en disant que oui, siéger voudrait dire véritablement qu'on est en train de cautionner la 5e République. De toutes les façons, aujourd'hui, j'avais dit sur ce plateau, quand on avait au temps chaud de la 5e République, quand on venait juste de voter, que si demain on organisait des élections sur la base de cette constitution, est-ce que aujourd'hui ceux qui ont refusé de siéger au Parlement vont se présenter? Si demain il y a des élections législatives qui venaient à être organisées, est-ce que les mêmes vont se présenter? Si oui, si la réponse est oui, parce que la politique du boycott n'arrange pas. Si la réponse est oui, ça voudra dire que quoi? Qu'on aura perdu du temps. Vous comprenez? Mais si la réponse est non, ce n'est qu'une logique de ce qu'ils ont entrepris, c'est-à-dire de la...
Les élections existaient avant la 5e République.
Oui, c'est ce que je dis.
Les gens vont y aller.
Oui, non, mais...
Il faut changer le cours des choses.
Non,
pas peut participer à ces élections-là, changer le cours des choses. Parce que les élections étaient là avant la 5e République. C'est les élections, c'est à cause de ça eux-mêmes ils ont changé les choses. Si jamais les élections arrivent et que les gens boycottent, ils ne peuvent pas avoir l'opportunité de faire renverser les choses. Donc les gens doivent aller pour renverser les choses. Moi, c'est mon avis à moi.
Ça c'est ton avis à toi. Mais l'analyse que nous on fait, ça dit que non, moi je reste journaliste. Si oui, aujourd'hui, les gens, on dit oui, voilà. Mais si demain, parce que c'est pas la même configuration électorale qu'il y aura lors des prochaines législatives.
On serait peut-être en plein pied dans la 5e République.
Oui, et puis c'est différent. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que on est en train de dire oui, dans les élections législatives qui vont venir dans quelques années, oui, mais sur la base de quelle constitution? La constitution de la 5e République. Et donc, est-ce que ceux qui aujourd'hui boycottent iront?
On va espérer voir.
C'est ce que je dis en fait, en réalité. Donc, pour le moment, on ne peut pas juger. Oui. Mais si la réponse est oui, on aura perdu du temps dans la contestation. On aura perdu du temps dans ça. Vous comprenez? Mais parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'opposition n'a pas autre moyen de contestation que la manifestation pacifique, que les communiqués, que la dénonciation. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, il va falloir, si oui, qu'au niveau du cadre de concertation, que les discussions puisse se poursuivre, même si aujourd'hui on n'a pas suffisamment avancé sur le sujet. Il faut rester quand même dans ce cadre-là pour continuer la discussion.
D'accord, merci beaucoup. Alors Jean, est-ce que vous pensez, enfin vous avez l'impression que au niveau même d'ailleurs de la population, en matière de contestation hein, de cette 5e République, la population est tellement impliquée?
Au niveau de la population, les faits parlent d'eux-mêmes. Je ne vais pas faire du charlatanisme. Les quelques manifestations auxquelles l'opposition a appelé la population, vous avez vu le nombre de personnes qui sont sorties. Et c'est assez évocateur que même s'il y a certains peut-être qui ne sont pas d'accord, il y a une certaine lassitude, il y a une certaine résignation. Mais moi, je constate une chose. Le pouvoir de Lomé est dans une dynamique, dans une logique depuis le début de cette aventure, c'est-à-dire aller vers une 5e République, mettre en place les institutions. Et je crois que ils sont dans la dynamique, tout va pour le mieux pour eux. L'opposition, quant à elle, avait affirmé urbi orbi, non, nous allons nous opposer, voici. Mais avec le temps, on se rend compte que la dynamique est en train de faiblir du côté de l'opposition. Et ça, tout le monde le remarque.
Eh ben, c'est de bonne guerre. L'opposition est dans son droit toujours de manifester. Et moi, je dis actuellement, le rapport de force n'est pas en faveur de l'opposition, il faut le reconnaître, et l'homme l'a tantôt relevé. Il n'y a que les manifestations qui peuvent aujourd'hui être un levier pour pouvoir inverser la tendance, mais où elles sont, tous, nous en sommes témoins. Mais l'avenir nous en dira plus. C'est vrai que les institutions, la mise en place a démarré petit à petit, on verra si elles aboutiront, ou si avec le temps peut-être, il y aura une situation qui fera que le rapport de force sera en faveur de l'opposition.
D'accord, ok. Nous allons quitter le sujet. On s'intéresse maintenant à ce sujet évoqué hein, depuis le début alors de cette émission. Je veux bien parler alors des États-Unis, la présidentielle aux États-Unis. Il y a des journaux qui sont revenus alors là-dessus, puisque cette présidentielle a révélé quand même le retour hein, de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il y a Canal D. Jean, vous êtes revenu sur le sujet. Vous écrivez 47e président des USA, l'énigme Trump is back. Et Michel, vous écrivez Wara, les vainqueurs, vous écrivez aussi déjà sur cette question USA présidentielle, le comeback historique de Donald Trump. Ford adresse ses vives félicitations aux nouvelles élus. Alors, quand on prend cette question, ou on prend la politique au niveau alors de cette présidentielle, hein, au niveau des États-Unis, alors, comment vous avez accueilli ce retour de Donald Trump, Michel?
Oh, moi, je ne suis pas américain. Hein. Moi,
Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste et vous pouvez faire même des analyses par rapport à cela.
Bon, c'est son élection.
Vous n'êtes pas américain, mais vous avez écrit là-dessus.
Oui, son élection concerne beaucoup plus les Américains. Nous, on est de loin et bon, on voit et bon. Moi, bon.
Donc,
ça c'est clair. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, le monsieur, c'est un vrai combattant. Il s'est battu. Il a montré aux yeux du monde qu'il a une vision et ce qu'il a envie de faire, il l'a fait. Il est revenu. Il va revenir à la maison dans 2 mois. Mais ce qui m'a tellement, en tout cas de loin, par rapport aux médias, ce qui m'a tellement frappé, c'est la coalition des médias occidentaux contre sa candidature. La campagne que certains médias, c'est de ces médias qu'on nous parle ici, c'est le professionnalisme. Il faut être impartial, il faut... Mais je ne sais pas qui va venir demain encore au pays. Mais tu mets devant moi pour me parler du professionnalisme. Au fait, j'ai appris sur toute la ligne que désormais, il n'y a personne, aucun média, il n'y a aucun journaliste qui va venir pour venir nous dire que lui, il veut nous enseigner le professionnalisme. Ça, la leçon, nous l'avons apprise. Parce que... cette victoire de Donald Trump, ce n'est pas une simple victoire. C'est au-delà d'une victoire. C'est que il a grillé cette dame-là à jamais. Je ne sais pas si demain, parce que dans 4 ans, les choses vont... Il y aura la division des cartes. Je ne pense pas qu'elle pourra se sortir de cette affaire. Pour dire que ce qui s'est passé me montre depuis 1 an, depuis 2 mois, depuis 2 semaines, comment la campagne est faite, j'ai pu comprendre que ceux qu'on nous présente comme des experts, des chercheurs, des spécialistes de tel coin, ils nous ont blagué pendant près d'un an. Toutes leurs analyses ont été fausses. Et ça nous permet de comprendre que, en réalité, le monde ne fonctionne pas comme nous le voyons.
D'accord.
Parce que, justement... pour finir, hein,
oui.
Comme on n'a pas assez de temps, j'ai pu comprendre que Trump en 2020, on l'a volé cette élection. Je ne le croyais pas, mais à partir de ce qui s'est passé ces derniers instants, j'ai pu comprendre que le complot qui a été ourdi en Europe, c'est-à-dire on veut nous imposer ici une vision erronée de la politique américaine. C'est-à-dire l'Europe veut nous imposer
une vision erronée c'est ça, c'est et nous les avons attrapés.
D'accord.
Okay, c'est fini. C'est fini maintenant. Alors oui, embrasse.
Oui, vous savez, moi j'ai toujours été passionné par la géopolitique mondiale. Michel a chuté quelque part. La dernière fois, j'écrivais tout le tintamarre des médias là. Même jusqu'à 2h du matin, RFI croit toujours que
Kamala.
Certains comtés vont tomber en faveur de Kamala. La veille, l'avant-veille, j'ai écrit que si, j'ai écrit sur une plateforme, c'est pas chez l'autre. J'ai dit que si on vous dit, les médias occidentaux vous disent que les sondages prédisent que les gens sont au coude à coude, c'est qu'ils ne veulent pas nous dire que Trump va gagner les élections. Je l'ai écrit 3 jours avant les élections. Que c'est que Trump va gagner. Ils ont la certitude qu'il va gagner. Le monsieur, il est un anti-système. Ce qui est intéressant chez lui, il est contre l'avortement, contre l'homosexualité. Le monsieur, c'est le protectionnisme à outrance. C'est-à-dire que lui, c'est l'Amérique ou rien.
Amérique fesse.
Et en plus de ça, l'autre n'a pas eu la chance de faire au moins 1 an de campagne. C'est juste 3 mois de campagne. C'est le vieux qui l'a mis dans ce pétrin. C'est le vieux sortant là.
Vous voulez parler de Biden?
Qui l'a mis dans ce pétrin? Et ce qui est encore intéressant chez le monsieur, il dit que vous êtes un pays de maître. Vous plaignez de quoi? J'ai dit, la dictature va se renforcer en Afrique. Et partout dans le monde. Déposez vos yeux, vous allez voir. C'est un fasciste. C'est-à-dire qu'un néo-fasciste. La guerre en Ukraine, il a dit, c'est sa priorité.
Et en 24 heures.
En 24, il n'a pas encore arrêté.
Peut-être que c'est quand il va prendre les commandes. Il n'a pas encore pris fonction.
C'est quand il va prendre les
en janvier.
Israël et Palestine, là. Les Palestiniens, même, ils ont actuellement la main sur la tête. C'est-à-dire que ce qui est intéressant chez lui, il dit que c'est un monsieur, si jamais, ce que là où je suis content, c'est que personne ne nous amènera dans 4 ans cette histoire de Covid. Aucun laboratoire ne va nous amener encore histoire de Covid. Parce que j'ai l'impression que ces Européens-là, ils sont foutus, hein. Pascal, les Européens sont foutus, actuellement ils sont en débat, hein. Et ils vont se diviser en 3 camps. Le président hongrois, on l'appelle comment?
Orban, Victor
Orban. Orban aura ses alliés. Sûr que l'Italie va se rallier à Orban. Il y aura d'autres camps. La France, eux, ils sont à l'air, comme les hélicoptères. Parce qu'elles ne savent même pas là où aller. Tu vois que les gens sont rapidement, ils ont couru pour féliciter Trump.
Oh, ça ne change rien.
C'est un malaise, merci. C'est un malaise général qui est là. Et ils n'ont jamais imaginé. Bizarrement, tous les coups, Wall Street, tout ça là, sont montés en flèche. Pourquoi? Oui. Parce que les gens sont contents.
Nous, ils l'ont fait pour Michel Erdogan. Ils l'ont fait pour Erdogan.
Tout à fait.
Et ils ont échoué.
Ils ont échoué. Michel a dit, nous, on n'a rien à tirer avec les histoires de l'Europe et les États-Unis. Rien à tirer.
D'accord.
C'est pourquoi je suis content.
Ok, alors, Maroula, déjà, Trump au pouvoir, Trump qui est revenu, on connaît la position même d'ailleurs de Trump sur un certain nombre de questions, hein, des questions géopolitiques. Qu'est-ce que le monde deviendra?
Je suis tenté de dire que avec Trump, le monde deviendra beaucoup plus calme.
Et meilleur.
Parce que on avait tous commis l'erreur lors de son premier round de juger l'homme par rapport à sa tête. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'homme? Et souvent, ce sont les médias occidentaux qui nous envahissaient avec ce type de préjugés. On a les preuves. En Afrique, il suffit qu'on n'aime pas ou qu'un dirigeant décide de tenir un peu tête à l'Occident. On le stigmatise de dictateur et nous tous on est dedans, on est fiers. On vient de voir la preuve palpable que ben, vous savez, la géopolitique c'est un peu quoi? Voilà un peu, Ambroise l'a dit, que l'homme c'est un anti-système. Le système est tel que les plus grands s'unissent entre eux pour d'abord dominer les plus faibles et alimenter les zones de conflit pour faire tourner leurs grandes entreprises de lobby, de vente d'armes et tout. Voyez-vous. Et vous allez le constater que l'administration Biden a plus investi dans la guerre, on va dire, entre l'Ukraine et la Russie, du côté de l'Ukraine. Mais lorsque je me rappelle que M. Trump, lors de son premier round, était celui-là qui avait décidé de commencer par rapatrier les troupes américaines de l'Irak, par exemple. Et son côté humain, c'est-à-dire le visage humain de son administration qu'on a vu, c'est un monsieur qui est contre l'avortement et tout ce qu'il y a d'inhumain que nous constatons dans notre société moderne-ci. Mais alors, peut-être ce qu'on lui reprochait, c'est que quoi? Le monsieur, il est trop protectionniste, il a une politique de... enfin, il est un peu contre la politique de migration, mais en réalité, où est son mal dans ça? Chaque dirigeant est là pour protéger l'intérêt de son pays, de son État. Nous autres, notre malheur, c'est que peut-être on a des dirigeants qui ne pensent pas à nous. Et à un moment donné, on est obligé d'aller se chercher ailleurs. Et alors là, on ne peut pas s'en prendre à quelqu'un qui veut protéger les leurs. C'était l'erreur qu'on avait tous commise, hein. Aujourd'hui, on l'admet. Et donc, vous avez posé la question, mais avec Trump, que deviendra le monde?
Oui.
J'ai envie de dire, avec Trump, le monde deviendra plus calme et vivable.
D'accord. Alors, Elon, est-ce que vous avez compris le peuple américain? Quand déjà on prend un Trump qui, déjà dans ses propos, il y a toujours de l'agressivité, il y a toujours des choses quand même que des gens n'apprécient pas trop, mais c'est lui qui a été élu.
Aujourd'hui, on est dans un monde d'incertitude. Et moi, quand je regarde un peu tout ce qui se passe dans le monde avec la démission de l'Organisation des Nations Unies, qui est censée maintenir la paix dans le monde, je me dis que ces élections aux États-Unis... on attend de voir ce que ça va donner avec l'élection de Donald Trump, parce que justement, vous savez, on est dans une configuration un peu compliquée. Et on a vu ce que Trump a fait en tant que 46e président, 45e président des États-Unis. Et il y a actuellement le 47e. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines années. C'est vrai que bon, cette élection a beaucoup passionné au-delà des frontières américaines. Mais quand vous regardez un peu ce qui se passe où Trump a dit tous ceux qui sont en situation illégale aux États-Unis, je vais les expulser. Et ça fait que bon, il y a des étudiantes des étudiants africains qui ont commencé à se tenir la tête parce qu'ils sont dans une situation illégale. Mais en réalité, quand on parle de la migration, c'est ça même le premier débat. Vous allez voir que l'une des raisons de cette réélection de Trump, c'est quoi? C'est des sujets clés. Par exemple, les États-Unis d'Amérique disent qu'ils sont envahis, les Américains disent qu'ils sont envahis par le reste du monde. Les Français disent la même chose aujourd'hui. Et quand vous êtes aujourd'hui en France, que vous parlez du sujet de la migration, les gens vous écoutent avec intérêt, ils vous disent oui, ils vous regardent, ils disent oui, parce que vous dites quoi? Vous dites que oui, vous êtes envahis, il va falloir qu'on redonne la France aux Français. Il va falloir qu'on arrête, voilà, d'être envahis par des gens de façon illégale. Et quand vous tenez ces discours, écoutez, vous avez 1 million de personnes tout de suite qui vous suivent, parce que quoi? Il y a une forme d'injustice où les gens se disent qu'ils sont dans le pays, ils travaillent, et il y a des gens qui viennent les envahir, qui sont en situation illégale, et que l'assistance sociale, eux, les couvre. Par exemple, quelqu'un vient, il est en situation illégale, quand il tombe malade, il va à l'hôpital, on le soigne gratuitement, on l'opère gratuitement, et c'est moi qui paye, parce que je contribue, c'est mes taxes. Et moi, quand je suis citoyen de ce pays, je vais à l'hôpital, je dois payer, parce que je paye l'assurance maladie, parce que je dois faire ceci. Et donc, quand vous savez, c'est des sujets aujourd'hui qui sont des sujets transversaux. Quand vous prenez Trump, quand on parle du débat sur la migration, il a parlé aujourd'hui de la guerre qui se passe avec les blocs que vous connaissez. Et donc, il est resté dans des sujets qui ont permis de revenir au pouvoir afin de... Et puis après...
Et c'est sans langue de bois, hein?
Oui. Et puis après, les Américains, vous allez voir, il a fait de façon exprès, quand on lui a tiré dessus... où l'enquête est ouverte, on ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'on aura les résultats. Il s'est levé, il a dit fight, fight, fight. Mais quelqu'un qui en vient de tirer, qui se relève en sanglantant, dit fight, fight.
Mais ce sont des choses quand même qui lui ont donné assez de
popularité. Mais pour un Américain, quand vous lui dites fight dans ce monde d'incertitude aujourd'hui où les États-Unis sont en train de vouloir se battre contre tout le monde, la Russie et tout le monde, quand vous lui dites fight, fight, mais il se reconnaît dans le discours de son président. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui. Il faut que, ça dit, Magloire vient de dire quelque chose. Ambroise a parlé de la vie chère, etc. Michel en a parlé, j'en ai parlé. Tout le monde est d'accord que c'est la vie chère.
Tout à fait.
Mais si quelqu'un se lève aujourd'hui, écoute les doléances, dit que oui, voilà, mais demain, les prix vont diminuer, mais tout le monde va se retrouver dans
d'accord. Jean, rapidement, vous allez vous prononcer aussi sur le sujet, mais je voudrais que vous vous intéressez plutôt à cette question. Et c'est vrai, Hillary Clinton n'a pas pu relever le défi. Et quand on prend aujourd'hui Kamala aussi n'a pas pu relever ce défi. Est-ce que ça veut dire que la société américaine n'est pas prête aujourd'hui à avoir à sa tête une femme?
Ce serait simpliste de le dire. C'est vrai que dire que la société américaine n'est pas prête à avoir une femme, je ne peux pas l'affirmer. Parce que rappelez-vous qu'en 2016, Donald Trump n'a pas gagné le vote populaire, mais il a battu.
Hillary Clinton sur le vote des grands électeurs.
Tout à fait.
C'est-à-dire que la majorité des Américains avaient voté pour Hillary Clinton, mais Trump était passé. A contrario, cette année, Donald Trump a gagné les grands électeurs et a gagné le vote populaire.
Même le Congrès,
le Sénat est sous son contrôle. C'est donc dire que les Occidentaux et tout ce que nous avons eu comme analyse politique, spécialiste des élections américaines, analyste économique, tous ces gens-là ont pris 2 ans pour abrutir le monde entier. Ils ont pris 2 ans pour nous abrutir. Nous fait voir que Trump est mauvais. Mais en réalité, aujourd'hui, on s'est rendu compte que quoi ? La diabolisation de Trump n'a pas suffi. Elle n'a pas suffi aujourd'hui pour faire tomber l'homme. Parce que l'homme, aujourd'hui, pendant la campagne de Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle a fait ? Juste critiquer l'homme, il est ceci, il est cela. Le dernier jour de campagne, Trump a fait un discours de 2h18. Kamala Harris a fait un discours de 18 minutes et a invité une star de la pop américaine. Les Américains avaient besoin, au fait, de comprendre qu'est-ce que vous venez faire pour nous. Mais elle n'a pas été capable de le dire. Mais ces médias mensonges nous ont dit que non, elle a fait la plus belle campagne pendant la campagne. Hein. Mais aujourd'hui, elle a fait que non, c'était évident avec la campagne qu'elle a faite. C'était pas sûr qu'elle pourrait remporter la présidentielle. Mais aujourd'hui, Trump a été décisif sur l'économie, les minorités, l'avortement. Il a été clair. Parce que les Américains ont compris quoi ? Sous Biden, l'inflation a augmenté. Le pouvoir d'achat a diminué. Trump dit non. Vous voyez, sous Biden, aujourd'hui, vous payez le carburant à tel montant. Mais quand moi, je reviens, vous allez payer ça à tel montant. Voilà. Le concret, il a été décisif. Okay. Et ça a marché à sa faveur.
Merci,
Pascal. Quand on parle de politiquement correct, là, les Occidentaux, là, les Européens, là, c'est quoi ils appellent politiquement correct ? Vous comprenez ça ? Ils veulent, c'est de l'insulte pour tous les Américains qui ont voté pour Donald Trump. Que ça veut dire qu'ils ont voté un fou, un ordurier, quelqu'un qui insulte. C'est-à-dire qu'il faut, Jean le disait, le pragmatisme en politique, ça paie cash. Il faut être pragmatique.
D'accord.
Les discours mielleux là. On s'en fout quand quelqu'un parle bien français. Et après.
D'accord. Ok. Je sais que nos auditeurs s'impatientent à rentrer aussi en ce débat avec nous. Donc nous allons leur donner la parole. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Premier auditeur en ligne. Allô ?
Oui, bonjour, Canal FM.
Bonjour, comment vous allez ?
Ça va bien.
D'accord, votre nom c'est ?
C'est Karim Le Taximan.
Ah, Karim.
Oui, je salue tous les invités.
Allez-y.
Apparemment, selon mes idées, je pense que son excellence forme nous a laissé tranquille. Hein. Eux, ils s'en foutent de sa population. La manière dont ce pays a été dirigé, avec la vie chère, on n'arrive plus. Gaz, péage, tu penses ici, tout est cher dans ce pays. On n'est nulle part allé. Il y a des chantiers qui sont abandonnés partout. Ce petit pays. Et les gens qui sont avec son excellence ne peuvent pas l'aider à réparer ou même à travailler pour ce pays. Les chantiers sont abandonnés. Allez-y à Blogami. Allez-y sur le ministre, Bawara. Les routes sont commencées. Ça a été abandonné. Allez-y dans les quartiers. Et il n'y a aucun travaux qui commence au Togo qui finit. Ce petit pays, Dieu nous a donné tout. Le ciment est à 4 000. Allez-y dans les autres pays. Péage 500. On paye chacun à leur retour qu'on fait. Mais tantôt on dit qu'il n'y a pas l'argent dans ce pays. Les Occidentaux nous donnent de l'argent. On fait quoi avec de l'argent? On fait quoi avec de l'argent? On veut diminuer les choses. Et les Togolais peuvent vivre un peu. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? Des fois, je suis là, j'ai envie de faire pour ce pays. Je n'ai que 30 ans. Mais j'ai peur de mon pays. Jusqu'à quand ça va aller? Jusqu'à quand? Et quand on dit, il y a certains journalistes qui restent, qui défendent, qui pensent que nous, on parle trop. Hein? C'est pas bien. Merci, bonne émission.
Karim, le taximan, merci. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Nyamavo, chef.
Allez-y.
Oui, j'ai suivi mon comédien chroniqueur. Il dit que les pays de pipi, de merde, c'est comme nous avons l'habitude de suivre les clubs de Real Madrid et consorts. Les matchs de la sirène nous plaisent que les matchs de nos pays parce que chez nous, nos clubs sont des clubs de pipi, de merde. Il fait, il dit ça en relation avec les élections en Amérique. Ça nous a beaucoup plu. Mais qu'est-ce qu'on a chez nous en Afrique? Moi, je prie que Donald Trump ne s'arrête pas à ce message-là que l'Afrique, les pays africains sont des pays de pitié de merde. Hein? C'est son ambassadeur qui avait demandé au Togo de compter les bulletins de vote pas de Bruno. Il voudrait qu'il aille loin, qu'il nomme les ambassadeurs en Afrique conséquents pour sauver, comme il est là pour sauver les peuples. Qu'ils sauvent les peuples dans leur pays pour ne pas faire la promotion de venir chez eux. Il n'y a pas l'Eldorado en Amérique. Qu'ils nous fassent trouver l'Eldorado chez nous, pas ailleurs. Hein? Voilà un peu le Donald Trump que Kamala Ali traitait d'un fou parce que je l'ai écouté d'un coup de sa campagne. Il disait que après sa campagne, elle irait faire les analyses psychologiques. Mais elle n'a qu'à les faire. Les Américains ont vu qu'il est fou. Donald Trump n'est pas fou. Il est logique. Voilà. Donc, on le disait, les médias, ben, quand Donald Trump sort, on dit que Donald Trump est encore attaqué. Ben, Kamala Houston, elle autre, elle a encore fait quoi, quoi, quoi. Ben, on nous a trompés. Moi-même, je l'avais dit, hein, Donald Trump a déjà gagné. C'est pourquoi il a dit que, toi, j'ai battu ton premier combattant. Toi, je t'ai battu. Tu me demandes encore un second round. Ça veut dire que c'est moi qui dois demander. Ça se faisait savoir. Les Américains ne sont pas des dupes comme les Africains. On les trompe toujours. On pense que ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui sont toujours meilleurs.
D'accord.
Excusez-moi. Aujourd'hui, on compte 47e président. Donald Trump est 47e. Il était 45e.
Oui.
Mais aujourd'hui, là, on ne sait pas si la mathématique colle bien au Togo. Parce qu'on a beaucoup de mandats, mais nous sommes à 4e président.
D'accord. Merci pour votre intervention, monsieur Nyamavo. Allô? Il est parti. 90-86-35-35. 91-36-63-75. Allô? Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume.
Oui, c'est monsieur Célestin.
Monsieur Célestin.
Oui, vous nous appelez... vous remercie. Mais ce que au Togo nous vivons vraiment, sérieux, ce que je veux que les journalistes parlent, c'est le problème de la nuit là, qui nous a mis encore dans les problèmes.
Vous avez maintenant...
La nuit, les sociétés sont en train de se fermer. Les gens étaient sous peur. Mais on a mené en amie et la société paie, l'employeur aussi paie. Et tout ça, c'est une charge supplémentaire sur la population. L'ami, là, on vous est en train de parler. En Côte d'Ivoire, ça ne mise pas. Au Ghana, c'est fait, mais on ne réagit pas. Mais les sociétés se ferment. Les gens vont au chômage. Donc, nous les supplions. Ils ont qu'à voir tout ça, là. Le problème de gaz, la vie est chère. Personne ne nous répond. On nous conduit dans une dictature. Vous ne pouvez même pas parler. Donc, c'est ce que moi, j'avais voulu contribuer.
D'accord. Merci.
C'est compliqué. Le problème d'ami, là, vous ne parlez pas assez, mais. C'est une bombe
sur
la population togolaise.
Monsieur Célestin, on en parle. On en parle dès que des journaux évoquent le sujet. On en parle au club de la presse. Allô?
Paco, bonjour.
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, togolaisement.
D'accord.
Moi, j'ai une préoccupation toujours quand on raisonne que est-ce que les gens vont aller aux élections parce que c'est la constitution là qui va organiser des élections. Bon, entre nous, quand ils raisonnent comme ça, ils veulent nous dire que comment on nous gouverne là. Eux, ils sont d'accord que c'est le Togo seul qui est aujourd'hui le pays qui achète les choses plus chères. Le Togo seul qui rentre dans les banques quand tu fais prêt, où tu vas aller prendre l'argent sur ton prêt.
Le Togo seul, quand on produit ici, on achète pas cher plus que le pays qui va venir importer ça. Mais c'est le Togo seul, le Togo seul. Pour finir, on va aller manger sur le territoire. Quand ils viennent comme ça, c'est comme ils investissent les gens que vous refusez là. Vous irez aux élections, vous irez aux élections là. C'est la condition là qui a amené les élections au Togo. Qu'est-ce qu'on veut? Non, il faut vous aider.
D'accord.
Merci à vous.
D'accord, merci Basile. Je pense que Basile, c'est le... Ou bien Michel nous donne l'occasion de recevoir le dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
C'est Canal FM?
C'est Canal FM. Décidément, il ne nous écoute pas. Il semble qu'il n'a pas de retour. Allô? D'accord. Nous
recevons... Allô, allô.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Oh, ça va.
Et votre nom, c'est?
C'est Papa Sardinet.
Ah, Papa Sardinet.
Oui.
Je n'ai pas reconnu votre voix.
Ah, ok.
Oui, allez-y.
C'est moi.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est une blague. Comme Donald Trump a vaincu l'élection, l'Amérique, c'est la première puissance. Donc, lui, il a fait pour que la souffrance réduise le Togo. On souffre tôt. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée, Papa Sodien, pour votre intervention. Merci à vous tous, hein, qui est pour votre intervention. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau pour clôturer l'émission de ce jour avec un dernier tour de table. Michel, 30 secondes.
Oui, je voulais revenir par rapport à l'élection qui s'est déroulée aux États-Unis avec l'élection, la réélection de Donald Trump pour dire que les médias occidentaux ont une façon de fonctionner. Lorsque ils ont quelque chose à vous reprocher, ils s'organisent et on dit tout ce qu'on veut de vous. C'est pourquoi il faut que nous fassions extrêmement attention. Vous voyez, il y a des médias dont je ne vais pas citer les noms qui, quand ils parlent du Mali, du Burkina et du Niger et d'autres pays. Mais quand ils parlent de ces pays-là, mais vous avez l'impression que mais ces pays-là, vous arrivez là-bas, vraiment, c'est des pays invivables. Alors qu'il n'en est rien du tout. Il n'en est rien. On nous trompe. Quand ils veulent, vous les tenez tête, on vous traite de dictateur. Kadhafi, je regrette la mort de Kadhafi. L'a tué comme un chien, comme ça. Pour rien. Kadhafi était quoi? Regardez la Libye, aujourd'hui, la Libye de Kadhafi. Hein, Mugabe, qu'il est dictateur, et nous sommes d'accord, on danse, on chante tous les coups, il est dictateur. C'est faux. Parce que quand vous les tenez tête, et maintenant ils sont libres d'aller chercher et ils prennent leurs médias pour vous traiter. Donc, il faut, à partir de la réélection de Trump et tout ce qui a été fait par rapport à ce monsieur, il faut que nous ouvrons les yeux. Ça ne parle pas d'aujourd'hui, mais nous, on le sait depuis, mais il faut que le citoyen lambda comprenne que les médias là, faut faire extrêmement attention.
D'accord, merci Michel. Et l'homme?
Bon, vous savez, on a écouté les auditeurs. Quand vous écoutez les auditeurs, vous avez un peu... Vous prenez le pouls de la situation. Les gens aujourd'hui, actuellement dans le pays, économiquement, c'est difficile. Sans vous mentir, économiquement, c'est très difficile. Les prix ne font qu'augmenter. Vous prenez par exemple simplement le loyer. L'État dit « je plafonne ». Personne ne respecte ça. Et il n'y a aucun suivi. C'est-à-dire les Togolais sont laissés pour compte. C'est-à-dire que débrouillez-vous, quoi. L'État prend une décision. On dit les propriétaires de maison, louez les chambres à 6 mois, 3 mois de loyer, 3 mois de caution. Personne ne respecte ça, Pascal. Et ça ne dit rien à personne. Personne ne fait le suivi. Les prix sont chers. Personne ne contrôle les prix. Il ne faut pas qu'on nous blague. Le ministère du... Personne ne contrôle aucun prix sur les marchés. La bonne dame se lève, elle met le prix qu'elle veut sur son bidon d'huile. C'est ce qui se passe. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Alors qu'on a des services un peu partout, décentralisés.
Mais... intérêt, quoi.
Et puis, actuellement, la situation est très difficile. Vraiment, c'est un plaisir que nous faisons. Si le gouvernement peut faire un peu plus d'efforts pour soulager le Togolais par rapport à la vie chère. Actuellement, la vie chère est une réalité. Vous comprenez? Même manger, là, regardez les prix des produits de première nécessité. Regardez les récoltes. dans l'année. Les pluies étaient rares. Regardez les récoltes.
D'accord.
Et quand vous prenez... ceux qui vivent de l'agriculture, les cotonculteurs, ils se plaignent des récoltes, qu'ils n'atteignent plus les pics expirés avec Olam.
D'accord.
Il y a trop de situations. Tout à fait.
Il y a assez de situations.
C'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué. Jean Le Grand pour les Rennes, 30 secondes, s'il vous plaît.
Oui, vous savez, l'homme l'a dit, si on ne mange pas suffisamment et encore qu'on va être malade, c'est compliqué. Juste pour inviter...
On n'a pas le temps de réfléchir suffisamment.
Effectivement. Juste pour parler d'une situation que dénonce l'OPS Afrique, l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, il y a une dame auxiliaire de santé qui, il y a 2 ans, a été dans un établissement sanitaire pour se faire opérer et qui s'est vue enlever un rein. Ce n'est que 2 ans après qu'elle se rend compte qu'on lui a enlevé un rein. Elle s'est plainte, les actions ont été entreprises au niveau du ministère de la Santé et du ministère de la Justice. Et à ce jour, l'affaire piétine, il n'y a aucune avancée. Et l'OPS Afrique a sorti un communiqué de presse, a fait des démarches auprès de ces ministères pour vraiment voir où en est-on. Pourquoi est-ce qu'on peut enlever un rein à une dame sans son consentement? C'est extrêmement grave dans un pays qui se dit un état de droit.
D'accord, merci beaucoup Jean. Ambroise, 30 secondes.
Oui, moi je voudrais revenir sur un de mes articles par rapport à la dégradation des routes due au comportement des inciviques de certains usagers. Les tricycles là, ils transportent des barres de fer. C'est-à-dire que même les
gros porteurs... On en a parlé à maître reprise dans cette émission.
Oui, les gros porteurs. Quand l'État injecte des milliards pour la réhabilitation, la construction des voies, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est pour nous-mêmes, non. Mais si on veut les utiliser, utilisons de façon durable pour ceux-là qui viendront. Mais les gens, ils transportent des choses. Tu vas voir, au niveau de certaines parties des chaussées, le bitume a été complètement défiguré. Je ne comprends pas le Togolais.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, Mangula. Ambroise, Mangula. Mangula, rapidement, 30 secondes.
Non, je vais abonder dans le même sens, c'est-à-dire celui lié au malaise social qu'il y a dans le pays. Quand on le dit, peut-être on pense que c'est nous qui exagérons. Mais je veux juste ici citer un de nos partenaires au développement, la Banque mondiale, qui, dans un commentaire analytique, se basant surtout sur des chiffres actualisés d'il y a juste un mois, qui dit que le score du Togo sur l'indice de capital humain est de 0,43. Et cela signifie que les enfants nés aujourd'hui au Togo ne seront productifs qu'à 43% de leur potentiel à l'âge adulte. Et cela en l'absence d'accès à une bonne santé, à une éducation et à une alimentation adéquate. Je crois que ça dit tout
et
ça interpelle surtout les gouvernements.
D'accord, merci beaucoup Mangula d'être passé dans cette émission. Michel Tchadja, merci d'être passé dans cette émission. Et là, Mathis Oboué, merci d'être passé dans cette émission. Jean Le Grand pour les Rennes, merci à toi. Ambroise Mondo, merci d'être passé aussi dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jaro Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.